je suis Sarah, derrière le compte Madame la Juriste. Ma mission à moi, c'est de faire en sorte que le droit ne soit vraiment plus vu comme ton ennemi, mais vraiment comme un allié dans ton business pour aller plus loin et pour atteindre plus facilement tes objectifs. Je le fais, je t'accompagne via deux possibilités. Soit je te fournis en fait des modèles d'actes juridiques qui vont te permettre de te mettre en conformité, d'anticiper les problèmes dans ton business, ou soit je t'accompagne à passer de micro-entreprise à société et à aller encore plus loin, à aller vraiment défoncer ces barrières qui viennent dans ton esprit, te dire que tu n'es pas capable, te dire que tu n'es pas assez. Et moi, vraiment, j'ai envie de te montrer que c'est possible parce que j'ai accompagné d'autres entreprises à le faire et parce que je suis passée moi-même par ces questionnements que tu te poses actuellement.
Coucou Alexiane. J'espère que tu vas bien, mais du coup, je suis trop contente de te recevoir sur le podcast parce que tu, à la fois, es une artiste d'exception. Hein, moi, j'ai bien regardé ton site internet qui est merveilleux. Je recommande à tout le monde de passer là-bas, ne serait-ce que pour voir ce que tu fais. Mais aussi, tu es une legal friend. Tu fais partie des membres du bar à modèles. Et donc, je te reçois aujourd'hui pour que tu puisses me parler de ton business, de qui tu es, mais aussi de tes expériences juridiques positives comme négatives.
C'est parti.
C'est parti, est-ce que tu veux bien te présenter ?
Oui, donc moi je m'appelle Alexiane, sur les réseaux c'est Tsuki dans la lune, donc je suis artiste peintre et je crée un univers coloré, pétillant, fantastique et décalé pour faire rêver les grands enfants et pour apporter un peu de magie et de paix dans son intérieur ou même sur soi parce que je fais aussi des broches.
Super, alors effectivement tu proposes vraiment pas mal de choses qui sont autour de, voilà, de la créativité et c'est super intéressant parce qu'il y a des personnes qui parfois ont l'impression que finalement quand on est artiste on a du mal à se développer, faire des sites internet, que tout est forcément très compliqué. Et pour autant, il y a des artistes qui vivent de leur activité, qui se développent et qui, grâce à eux, quand même, j'ai vu sur ton site internet qu'il y avait un petit message qui disait si vous voulez mettre de la couleur sur vos murs blancs, bah, grâce à eux, il y a de moins en moins de murs blancs dans les habitations.
Il faut abolir le mur blanc, c'est une enfer. Il faut s'approprier l'intérieur. Ouais.
Et justement, est-ce que toi, tu as rencontré des challenges au moment de la création de ton activité? Et aujourd'hui, est-ce que tu en rencontres encore des challenges?
Ouais, alors j'ai plutôt rencontré des challenges, non pas dans la création, parce que je suis très créative et ça a toujours fait partie de moi, en fait, de ma personnalité. Donc c'était ça très intuitif, mais au niveau de créer son statut, d'être en conformité juridique, de gérer la comptabilité, parce que tu développes plein de casquettes que tu n'as pas forcément envie d'avoir au début, parce que toi, tu veux juste créer et faire ta peinture, ce qui te plaît. Sauf que la réalité, c'est pas ça. Et voilà, il faut vraiment. J'ai dû apprendre à l'accepter déjà. L'apprendre à moi me voir comme une chef d'entreprise et à gérer mon activité sereinement en disant aujourd'hui ce sera comptable, demain je vais faire mes AGV et ça fait partie du truc, après-demain je ferai mon site internet, parce que j'avais pas toujours les moyens de passer par quelqu'un aussi, clairement, parce que ça a quand même un coût. Et puis on apprend petit à petit et ça devient vachement intéressant et on prend plaisir à force de faire ça. Donc c'est plutôt cool.
Prendre du plaisir avec la comptabilité, mais comment c'est possible, Alexiane? Tu nous mens.
Eh oui, non, c'est, ça n'a pas été le plus simple, on ne va pas se mentir, mais à force, on trouve des tips. Et puis, quand on prend du plaisir, vraiment, ça passe plus vite. Et du coup, on peut faire quelque chose encore plus fun, plus rapidement. Donc, tant mieux.
Et oui, se concentrer sur ce qui nous fait vibrer, finalement.
C'est ça.
Et est-ce que ça fait partie encore... Enfin, bon, du coup, toi, tu arrives à trouver du plaisir, mais ouais. Est-ce que tu as encore des challenges en ce moment, au niveau de l'entrepreneuriat ou autour de ton métier?
Ouais, d'en vivre bien. Pour l'instant, je suis rentable, mais je ne me verse pas de salaire assez intéressant. Et donc, c'est de réussir à faire une activité où je peux en vivre pleinement et gagner suffisamment d'argent pour vivre entièrement de mon côté. En sachant que moi, j'ai quand même beaucoup de chance, j'ai quand même des revenus locatifs à côté qui me permettent de faire ça. L'argent, ça reste quand même très important, mine de rien. Et donc, ça, c'est le challenge principal, c'est aussi de me développer, de me faire connaître, de faire. Donc, je fais des conventions, je fais des marchés, mais c'est aussi de faire des projets plus grands, comme des fresques, par exemple, qui seraient pour des particuliers comme des entreprises. Enfin, voilà, c'est de trouver plusieurs offres qui pourraient toucher des publics différents et me permettre d'en vivre confortablement. C'est surtout ça le gros challenge.
Oui, et je pense que ce soit en tant qu'artiste ou dans d'autres domaines d'activité, ça reste le nerf de la guerre, en fait. L'argent, gagner de l'argent, en gagner suffisamment pour pas juste payer à la rigueur juste les petites charges, mais pour pouvoir en vivre, ça reste une difficulté pour tous les entrepreneurs. Et tu t'es lancé il y a longtemps ?
J'ai monté mon entreprise en janvier 2021, mais j'étais en service civique en même temps. Donc, du coup, voilà, je le faisais pas vraiment complètement. Je l'avais lancé comme ça, j'étais tranquille. Mais je faisais un ou deux événements dans l'année, même pas. Et j'ai vraiment commencé en mai 2022. En fait, à la suite du décès de mon père, je me suis vraiment lancée. Enfin, ça s'est tombé en même temps avec mon premier marché, mais du coup, ça m'a vraiment mis un coup de pied aux fesses d'un côté pour vraiment continuer à le faire et vouloir en vivre à 100%. Ça a été un peu le déclic.
Oui, bah, toutes mes condoléances,
Voilà. Merci.
d'ailleurs.
Pas forcément le moment le plus fun, mais
Mais
c'est vrai que ça fait partie de mon histoire.
oui.
Et en fait, il aurait vraiment voulu que j'en vive. Donc, d'un côté, ça fait partie de, ouais, voilà, de ce que j'ai voulu faire aussi.
Oui, et au final, ça a marqué de toute façon ta vie, mais aussi ta vie entrepreneuriale et ta manière de peut-être de combattre aussi tous les challenges justement qui peuvent venir sur ta route.
C'est ça.
Et ça devient peut-être une force si
Ça devient une force, ouais. Ça devient une force et ça devient un peu un chemin de vie, en fait, plus ou moins. Donc, voilà.
Et ça, c'est beau. Et parmi les problèmes justement que voilà, toi tu avais peut-être imaginé au tout début en te lançant, est-ce que maintenant avec le recul, parce que ça fait quand même depuis 2021 que tu es lancé, tu as vécu des événements aussi difficiles depuis ton lancement, que ce soit personnel ou même professionnel, j'imagine, est-ce qu'il y a trois points qui te viennent en tête que tu pourrais voilà, recommander ou à mettre on va dire en priorité en tête pour les personnes qui souhaitent se lancer dans le même domaine d'activité que toi?
Ouais, se former et pas que à la création, se former fiscalité, droit, accepter en fait ces parts qui vont faire partie de ton quotidien. Moi, j'ai fait l'erreur de penser que bah, j'allais pouvoir créer, et comme beaucoup, je pense, toute la journée, tous les jours. Et en fait, non, si tu veux créer comme ça, bah, faut que ça reste une passion presque, et c'est pas grave de laisser ça en passion. Mais si tu veux être entrepreneur et gagner ton argent et vivre ta vie grâce à ça, le fait d'avoir d'autres casquettes, bah, c'est une obligation, tu n'as pas le choix en fait. Et ça a été un challenge pour moi de me rendre compte de ça déjà, de l'accepter, de me dire, bon, allez, maintenant, il faut que j'arrête les conneries. Passer 3 jours à peindre, c'est très bien, mais bah, j'ai d'autres choses à gérer. Ça a été ça. Ça a été aussi d'apprendre à fixer mes prix comme il faut et pas me dévaluer en disant que si je mets pas cher, j'aurai plus de ventes et du coup, je vais faire plus de sous. C'est loin d'être vrai, c'est même surtout très, très faux. Plus tu mets pas cher, moins les gens achètent parce qu'ils pensent que c'est pas artisanal, que c'est pas toi qui crée, ils voient pas la valeur en fait de ce que tu crées. Et puis bah arrêter de me dévaluer et voir vraiment comme l'art comme un métier en fait et pas juste c'est bon à l'artiste, elle est un peu marginale, elle est un peu de côté. Non, ça fait partie de la vie, l'esthétique fait partie de la vie. Décorer chez soi, c'est aussi très important. C'est, enfin, je sais pas. Ça aussi, c'est important de le prendre en compte.
Ah mais totalement, et je rebondis sur ce dernier point, hein, qui dit que c'est vraiment un métier. Il y a beaucoup de métiers comme ça, passion, où lorsqu'on se lance, on oublie le côté vraiment métier. Et du coup, qui dit métier dit quand même règles, encadrement, que ce soit même toi vis-à-vis de toi, que ce soit de fixer tes horaires, que ce soit de fixer tes tarifs, mais aussi de ne pas te laisser marcher dessus avec tes clients. Et
Oui.
donc, il y a pas mal d'artistes qui viennent me voir et qui me disent, mais pas que des artistes, hein, je veux dire quand même tous les métiers passion, où on peut venir, mais beaucoup d'artistes quand même, viennent me voir en me disant, mais moi je suis pas concernée, j'ai pas besoin de CGV, tu vois, je fais des tableaux, j'ai pas besoin de CGV, je suis graphiste. Mais en fait, c'est pas parce que tu es artiste et que tu fais un métier qui est quand même qui te procure du bien de base, qui est peut-être ton loisir de base, que tu n'es pas une entreprise. Et donc, si tu es une entreprise, tu as besoin des mêmes règles juridiques que les autres entreprises.
Ça donne un cadre, ça évite de se faire marcher sur les pieds, de vivre des choses pas chouettes aussi. Et puis, bah, en fait, c'est un métier, donc tu as des règles et c'est normal. Et ça, toi, ça t'assure un peu ta posture de chef d'entreprise, du coup, en disant, bah, c'est pas juste moi qui fais ça, mais dimanche matin, parce que j'ai envie de le faire, quoi.
Mais carrément. Et est-ce que tu vois des erreurs qu'il ne faut surtout pas faire dans ton domaine d'activité quand on se lance ou...
Bah, ça va être ça, ça va être brader ses prix, vendre, je sais pas, des tirages à 5 euros, alors, ou même des originaux à 5 euros, et alors que tu as passé 4 heures dessus, c'est hors de question. Et j'en vois, moi, beaucoup en convention faire ça. Même des gens qui sont déclarés, hein, enfin, y a pas... voilà, c'est un peu terrible. C'est faire quelque chose aussi que tu n'as pas, enfin, ne pas être vrai dans ce que tu fais. Je pense que c'est aussi très important d'être authentique dans ce que tu fais. Et ça se ressent, en fait, surtout, je trouve, dans l'art, où c'est quand même, tu transmets une émotion par rapport à grâce à ton travail. Donc, si toi, t'es pas vrai et pas droit dans tes baskets, bah, ça va se sentir, même si ce sera pas forcément explicable. Et puis bah penser que la compta, la fiscalité, c'est pas pour toi, et faire l'autruche en disant que si tu le vois pas, ça va le faire, sauf que bah si tu le vois pas, ça glissera quand même et ça va être une montagne le jour où tu voudras t'y intéresser. Alors que finalement, si tu prends le temps de comprendre en te posant, en disant bon allez, ça va être facile, je vais prendre le temps, je me pose 2 heures, je vais lire un petit article, j'essaie de comprendre, tu vas prendre l'habitude et tu vas trouver qu'en fait finalement ça va, c'était pas si dur. Et bah si c'est pas si dur, c'est que tu peux continuer à le faire. Dédramatiser un peu tout ça.
Mais complètement. Alors, tu rejoins à 100%. Et parmi justement ces problèmes-là, quand on se lance et que justement on voit que l'aspect passion, qu'on ne pense pas assez aux problèmes du métier, en fait, tout simplement que même tout entrepreneur pourrait rencontrer, que ce soit autour des prix, comme on l'a vu, l'administratif, la phobie des entrepreneurs. Est-ce que toi, par exemple, tu avais pris le parti justement de te faire accompagner pour tout ce qui est la création de l'entreprise, le choix de ton statut? Est-ce que tu avais une stratégie en te lançant ou tu es partie en mode on verra bien?
Je suis partie en mode on verra bien. Je me suis quand même beaucoup renseignée et à ce moment-là, mon papa m'a beaucoup aidée à trouver le bon statut en sachant que comme je suis artiste, en fait, il n'y a pas vraiment de choix de statut. Comme je fais des œuvres qui appartiennent à la propriété intellectuelle, c'est forcément le statut d'artiste-auteur. Et du coup, je n'avais pas trop à me poser de questions. Après, tu as plusieurs régimes comme la micro-entreprise dedans, des régimes fiscaux. Mais en choix de statut, c'est surtout artiste-auteur. Le coup. Enfin, dans mon cas, voilà. Mais comme il y a peu d'informations dessus, c'est pas un statut qui est très connu, mine de rien. Du coup, tu as plein d'organismes qui comprennent pas trop ce que tu fais. En fait, ils mélangent avec les micro-entrepreneurs, sauf que y a des petites variantes quand même.
Qui Et sont chaque pas... année, tu dois faire un compte de résultats.
Ouais.
Ouais. Donc, dépend ça, ils ne le savent pas.
C'est ça. Je dépends de l'URSSAF du Limousin. Mmh. À récupérer avec la sécu des artistes, sauf qu'ils ne sont pas trop au courant non plus de ce qu'ils font. Et c'est des situations assez cocasses. Mais voilà, tu dois déclarer ton chiffre d'affaires ou tes bénéfices en fonction du régime que tu as choisi, si c'est au réel ou si c'est avec l'abattement. Sachant que moi, j'étais en abattement et je suis en train de passer au réel parce que je me suis rendu compte que ça ne valait pas le coup. C'est là où j'ai commencé vraiment à m'intéresser d'ailleurs à la fiscalité. Mmh. Ça, parce que... je ne vais pas payer des taxes sur l'argent que je n'ai pas, en fait, tout simplement. C'est vraiment bête. Et je m'en ai fait une montagne de ce changement, alors que c'est pareil, ce n'est pas si compliqué.
Oui. Et en plus, il faut savoir que quand même, dans les textes, finalement, le régime artiste-auteur, normalement, est censé être toujours au régime réel. Alors, vous allez me dire pourquoi. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que moi, je travaillais au service RSA pour les travailleurs indépendants et on avait une grille comme ça, étatique, enfin, qui est interne pour les administrations. Et effectivement, artiste-auteur égale régime réel. Donc, nous, quand on vérifiait, on demandait tout le temps le compte de résultat, quoi. Et il y a beaucoup d'artistes qui sont mal libellés. Ceci, au moment de la création de leur activité et qui ne sont pas libellés en tant qu'artiste-auteur. Donc, il y a pas mal d'artistes qui, finalement, ne sont pas rattachés comme étant juridiquement des artistes et sont plutôt rattachés comme des entrepreneurs, je ne sais pas, qui vendent des produits. Mais si tu ne dis pas que tu vends des produits que tu as fait toi-même et que tu as créé toi-même, personne ne peut le savoir. Donc, faites attention aussi à ça. Pensez toujours à quel régime je dois être rattachée en fonction de mon activité, parce que si vous ne l'êtes pas, alors... C'est juste que vous ne bénéficiez pas de ce cas de figure, enfin, vous ne rentrez pas dans cette catégorie, en fait, des artistes-auteurs et que techniquement, vous êtes considéré comme entrepreneur qui vend des produits. Donc, ce n'est pas la même base légale, en fait. Il faut faire attention à ça. Renseignez-vous bien avant de créer votre activité.
Oui, ça dépend aussi du code APE.
Oui.
Il semble, je crois que Art Graphique, c'est 930 ou 9300.
Voilà. Et... vraiment le nom de la vraie activité et pas simplement de dire je vends des trucs. Enfin, tu sais, je vends. Oui, bien sûr, là, tu es vendeur, mais on ne parle pas de ta spécificité, de ton activité.
C'est ça. Une blague comme ça, il faut faire attention.
Et oui, et il y a des petits pièges partout. Mais maintenant, ils ont mis en place une réforme au niveau de la création d'activités. Maintenant, tout est sur procédure.impi. .fr. Donc maintenant, on ne vous demande pas forcément de sélectionner parmi une grille de code APE, on vous demande de remplir votre activité et après, on vous affecte un numéro en fonction des subdivisions que vous donnez. Donc, ça peut être un petit peu fastidieux au début à prendre en main, mais c'est parfois plus précis et du coup, ça évite les erreurs parce qu'on reconnaît plus facilement notre activité. Comme ça, quand c'est bien clarifié en fonction de ce qu'on dit avec le robot, on va dire, qui arrive à cibler. Et au niveau, donc, ça, c'est la paperasse, les formalités, oui. Le lancement d'activité. Mais ensuite, une fois que tu étais lancée, est-ce que tu as eu, genre, une désillusion quand tu as découvert qu'il fallait te mettre en conformité, quand tu as découvert les documents juridiques, ou alors tu étais au courant peut-être?
Alors, j'étais pas forcément au courant, mais ça m'a pas étonnée parce que vu que j'ai des biens immobiliers déjà, je traîne un peu déjà, on va dire, dans l'administratif, la fiscalité. Avec mes parents, on a souvent géré ça, géré les bails, les baux commerciaux, géré les locations. Donc, je savais qu'il existait un terrain fiscal. Du coup, je suis pas tombée des nues non plus, mais je savais pas trop exactement ce qu'il fallait faire. Et je savais qu'il fallait que je le fasse, par contre. Je savais qu'il y avait des obligations parce que j'ai suivi deux formations. Et dedans, il parlait justement des mentions légales, il me parlait des CGV. J'étais là, bon, d'accord, je veux bien, mais comment je fais? Mais je l'ai repoussé un petit peu, j'avoue. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il faut vraiment que je m'y mette maintenant parce que ça va bien de repousser un an, mais au bout d'un moment, si ça me tombe dessus, c'est un peu dommage en sachant que je sais qu'il faut le faire, quoi. J'ai pas l'excuse de l'apprendre.
C'est ça. Et puis, je le dis souvent, mais on n'a pas de budget spécial litige. Tu vois, en général, on ne garde pas de l'argent de côté pour « Ah, je vais attaquer mon client qui ne me paye pas !» Tu vois. Donc, il vaut mieux anticiper avant et c'est finalement de l'économie qu'on se donne pour l'avenir. Et comment tu es passée par le bar à modèles pour ton pack Cosmopolitan?
Eh bien, en fait, j'ai fait la formation de la BSB Academy. Et du coup, j'ai découvert ton travail et je trouvais ça super chouette de mettre un peu de couleur, de fun, de simplicité dans le CGV, ce qui sont des valeurs qui me vont aussi très, très bien. Et je me dis qu'il fallait que je le fasse et voilà.
Je voulais dire aussi que franchement, il faut aller sur ton site tsuki dans la lune.fr parce que vraiment, si vous allez voir les pages légales, elles sont super belles et vraiment, on reste dans son univers parce qu'elle a un univers assez particulier, assez beau et vraiment, pour le coup, on sent la patte de l'artiste. Et bien, on les sent même jusqu'aux documents juridiques, que ce soit dans les titres, dans la mise en page. Il y a certaines clauses qui étaient longues qui, du coup, sont coupées en paragraphes. Du coup, ça rend la lecture beaucoup plus agréable. Donc, je vous invite à aller regarder le site tsuki dans la lune.fr et puis regarder un petit peu ce qu'elle propose aussi comme produit. Et pour finir, est-ce que tu veux bien nous partager une anecdote autour du droit, justement, que ce soit avant ou après ta mise en conformité, quelque chose qui t'a marqué ou tu t'es dit, heureusement que le droit était là pour m'aider, quoi.
Ouais. Je cherche, j'en ai peut-être deux en tête, je ne sais pas si ça correspond exactement à 100%. Il y en a une où j'ai eu un projet de faire une fresque au sol pour un centre culturel sur Dijon, parce que je viens de Dijon, et il fallait envoyer un devis, donc j'ai envoyé un devis. J'ai dû mettre plusieurs jours à le faire parce que le syndrome de l'imposteur, en disant « mon Dieu, qu'est-ce que je peux demander, machin, tout va, rien ne va ». J'ai envoyé un devis, il s'avère que le budget était, que mon projet était hors budget pour leur budget, mais ils me l'ont dit en fait, ils ont dit voilà, on comprend très bien que ça coûte, je crois que ça devait à 900 euros pour une journée de création et de réalisation. Ils m'ont dit on comprend très bien, nous on est une petite structure, on ne peut pas se le permettre, est-ce que c'est possible de revoir le projet? Et en fait juste le fait que j'ai envoyé un devis qui soit refusé dans le prix, mais en fait que le projet soit quand même accepté, je me suis dit mais au final c'était pas si terrible. J'ai refait mon devis, j'ai essayé de faire une création plus petite en baisant un peu mon service pour qu'on trouve un accord tous les deux et ça a très bien fonctionné et j'ai pu faire leur projet derrière. Et ça m'a un peu aidé à dédramatiser en fait le devis en disant mon Dieu, c'est pire, il est refusé, mais on a trouvé un accord quand même en fait, donc ça a quand même fonctionné. Ça et.
Ok, juste pour ce petit point-là, à l'avenir, du coup, tu ferais comment? Est-ce que tu resterais sur ton prix? Et que tu dirais non à la mission, ou alors tu trouves un terrain d'entente en enlevant des parties de la prestation comme tu as fait là. Les deux se valent.
Là, c'était un peu pour un projet qui me tenait aussi à cœur.
Oui.
Du coup, je pense que je l'aurais fait dans tous les cas. Je ne l'aurais pas forcément fait pour d'autres projets, si les projets m'intéressaient moins. Et puis là, c'était une première expérience, c'était une fresque à la craie au sol. Donc, il y avait plein de choses que je pouvais tester, que je n'avais jamais fait. Et donc, je trouvais ça super intéressant à faire. J'avoue que je ne sais pas si je l'aurais fait pour d'autres types de projets. Mais ouais, à l'avenir, je pense que ce sera vraiment au cas par cas, en fonction du feeling que j'ai avec la personne, comment ça se passe, du projet en question et de moi, ce que je peux faire. Parce que comme c'est aussi un premier test, je me suis dit, je vais voir ce dont je suis capable et comment mon corps réagit. Parce qu'une fresque au sol, tu te flingues un peu le dos, on ne va pas se mentir. C'est quand même très physique. C'était une fresque qui fait 6 mètres par 6, donc c'est quand même pas
tout.
Ouais, sur un jour de création. Et effectivement, enfin, c'était incroyable comme projet, mais ça demande beaucoup d'énergie. Donc, je pense que ouais, l'avenir, ce sera vraiment cas par cas. Et si c'est un premier projet, pourquoi pas? Si c'est un projet que je sais que c'est physique, c'est éprouvant et que ça demande quand même beaucoup d'énergie, je pense que je verrai en fonction.
Ce qui est important là que je vois, c'est que dans tous les cas, peu importe ce que tu choisirais en fonction du client, c'est toi qui choisis. C'est-à-dire
Oui.
qu'on ne te l'impose pas. Et il y a pas mal de gens qui se disent, bah non, il me dit son budget est 700, je m'aligne, même si le coût c'était 1800 parce que je l'avais évalué, je m'aligne parce que je ne veux pas louper le truc. Non, là c'est à l'inverse. C'est je décide si ce projet fait partie de mes objectifs ou non, et si je peux enlever ou faire quelque chose qui rentre dans le budget sans pour autant me dévaluer. Donc, je trouve ça très bien aussi à souligner.
C'est pas toujours facile, c'est sûr, mais c'est important. Puis surtout, souvent, j'ai remarqué que les projets où les gens pinaillaient vraiment sur le prix, c'est souvent les projets qui se passent le plus mal parce que ça te tire vers le bas, toi, t'as pas envie de le faire, il y a une mauvaise ambiance, et finalement, tu aurais peut-être été beaucoup moins de charge mentale si tu l'avais pas pris ce projet, plutôt que de gagner effectivement peut-être 400 euros, mais en te prenant des semaines et des semaines de galère, voilà, ça vaut pas forcément le coup.
C'est pas ce qu'on veut. Et tu avais une autre anecdote, si j'ai cru comprendre.
Oui, c'est ça. Alors, c'était plutôt positif. C'est tout récemment. J'ai fait un devis pour un ami qui voulait que je lui fasse un sticker avec ses animaux, sa famille, sa copine et leur enfant qui vient de naître. Et moi, j'avais un peu peur de donner un budget un peu élevé, j'avoue. Surtout que je fais très peu d'humains dans mes créations. Donc, là, il y avait aussi le coût de la fabrication parce que je passe par quelqu'un d'autre pour faire les stickers. Et là, je connais la qualité de mes stickers parce que c'est celui que je vends aussi. Mais tu as un minimum de quantité à avoir, ce qui fait que ça fait quand même un prix minimum que je ne peux pas baisser. Là, en l'occurrence, il y avait 50 euros de création, enfin, de pur et dur de stickers. Et du coup, je ne voulais pas mettre quelque chose de trop cher et j'ai fait un devis. J'ai mis encore du temps, beaucoup de temps à le faire, son devis. J'ai ensuite fait sa création. Donc, le devis est accepté sans problème. J'ai fait sa création. J'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps à faire la création. Mais ça, c'est moi, en fait. J'ai essayé plein de choses différentes, voilà. Et je lui ai dit que j'avais quand même mis du temps. Et en fait, il devait me payer 150 euros. Il m'a payé 200 euros parce qu'il a été super content. Et il m'a dit, ça ne compensera pas les 12 heures que tu as mis sur le projet. Mais c'est ce que je peux faire, moi. Et je trouvais ça super chouette de sa part. Et c'est là où je me suis dit, finalement, on peut quand même se permettre d'avoir un sticker. En soi, ça fait quand même énorme pour un sticker, mais c'est un super projet et ça lui a énormément plu. Donc, parfait.
Et j'étais super. C'est super beau. C'est beau ouais. Quand c'est à l'inverse, qu'on ne court pas derrière le client pour lui dire
ça.
Et là, de lui-même qui a envie de donner parce que pour lui, c'est comme un pourboire, comme une contribution parce qu'il est super content. Donc, ça, c'est une belle note.
Ouais, ouais. En plus, il m'a dit, c'est ce que j'avais budgétisé. Donc, je pense qu'il l'avait même prévu avant que je lui envoie le devis. Voilà. Et que du coup, ça correspondait à ce que lui pouvait faire. Ça allait, que c'était au-delà de ses attentes, on va dire ça comme ça. Oui. Et il était super content. Donc, c'est normal qu'il me rémunère mon travail comme il fallait.
Eh bien, parfait. Mais on en veut tous des clients comme ça. Ils sont où ? Non, mais je pense aussi qu'on attire à nous des personnes qui voient un peu notre aura. Et là, je pense qu'il s'est dit, je pense qu'Alexiane, elle n'a pas compris que son truc, c'était vraiment exceptionnel et que ça méritait plus, en fait.
Bon, on travaille tous sur le syndrome de l'imposteur et compagnie. J'ai l'impression que c'est un truc infini. Dès qu'on s'en sort, ça revient, c'est l'enfer.
Oui, et il faut se dire aussi qu'il y a certains aussi clients qui vont être en mode, c'est beaucoup trop cher, moi je veux un truc à 10 euros. Mais tu veux un truc à 10 euros, tu vas à Auchan, tu vas imprimer tes photos. chacun son objectif et chaque entreprise finalement peut s'adresser à n'importe quel client finalement, mais tous les clients ne vont pas raisonner auprès de tout ce qu'on propose. Et puis il faut aussi accepter de parfois laisser partir des personnes qui manifestement n'ont pas votre budget, qui vont vous demander 50% de moins parce qu'eux ils n'ont pas l'argent. Non, vous revenez quand vous avez la somme nécessaire et moi mon talent il bouge pas quoi.
C'est ça. Je vois ça beaucoup en convention à marché du coup parce que ça touche un public très divers et du coup mes créations ont un certain prix, surtout des pièces uniques, et parfois j'ai des remarques de, c'est cher et tout, et à côté j'ai des gens qui vont me l'acheter en disant j'avais prévu, il n'y a pas de souci, j'aime tellement que ça aurait été 10 euros, 15 euros plus cher, 20 euros, finalement, si ça correspondait à son budget, la personne l'aurait pris, en fait.
Et c'est ça qui est
beau. Ne peut pas plaire à tout le monde, au final, et c'est normal.
Eh oui. Bien, merci beaucoup, Alexiane, pour cet épisode de podcast. J'étais très ravie d'échanger avec toi et puis que tu puisses partager ton expérience sur ton métier et puis un peu plus en parler du côté administratif, juridique, qui fait un petit peu peur, mais pour sensibiliser aussi les personnes qui veulent se lancer, c'est pas impossible. Regardez, Alexiane, elle est là, elle est en place, t'es pas en train de mourir là, à côté
de la contrat.
C'est possible de s'en sortir à condition, comme tu le disais, de bien se former, de bien comprendre les tenants et les aboutissants de chacune, finalement, des choses qu'il faut faire pour pouvoir vendre, pour pouvoir prospecter, au niveau de la politique de confidentialité, des mentions légales, etc. Donc, ça, vous pouvez toujours faire un petit tour sur mon site si vous avez des questions. Je propose plusieurs ressources gratuites, comme des masterclass ou des guides, qui peuvent vraiment vous aider. Et par la suite, avoir votre petit pack fruité comme un pack Cosmopolitan, Mojito. Vous pourrez toujours trouver ce qu'il vous faut dans le bar à modèles. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour les auditeurs?
Et si jamais vous n'avez pas le budget pour vous l'offrir, parce que c'est vrai que ça peut être un coût. Moi, je sais qu'on me l'a offert à Noël. C'est un cadeau de ma maman. Donc, je pense que c'est toujours une bonne idée de se faire des cadeaux comme ça qui peuvent être vachement utiles. Parce qu'effectivement, pour les petites entreprises, ça peut être... un certain frais, mais ça va beaucoup vous aider. Donc, pensez au cadeau de Noël ou d'anniversaire pour ce genre de choses.
Mais c'est trop mignon. Genre, j'avais jamais entendu ça, le cadeau de Noël sous le sapin, le petit cadeau juridique. Ça me fait
fou. Elle m'a demandé ce que je voulais. Je lui ai dit, ça, il faut que je le fasse. Bah, tiens, allez.
Oh, c'est adorable. Eh ben, merci à ta maman. Et comment on fait pour avoir accès à justement à tes créations? Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous faire ton petit instant publicité?
Ouais, bah vous pouvez retrouver toutes mes créations sur mon Instagram, soukidanslalune, avec des points entre chaque mot, ou sur mon site internet, soukidanslalune.fr. Vous avez plein de créations très colorées. Je travaille aussi sur des commandes, des personnalisations de commandes. Je peux faire ton animal de compagnie qui sera enfin sage comme une image avec son petit portrait sur un chevalet, voilà, avec plein de plantes. Alors, il faut aimer la couleur, les plantes, les animaux qui ont l'air un peu bêtes, un peu débiles. C'est mon univers. Si t'aimes pas ça, bah tant pis. Mais si t'aimes ça, je pense que ça va te plaire et ça change un peu de ce qu'on voit tous les jours. Profite.
Et on veut plus de murs blancs.
Non, c'est pas de murs blancs. Non. C'est pareil. Je veux aussi des broches, les vêtements tout blancs, tout nuls. Non. Faut s'exprimer, c'est mettre de la couleur dans sa vie. C'est bon. Les news sont pas toujours très bonnes. Alors autant en profiter.
C'est clair.
On se met des good vibes à tout le monde. Ça fait du bien.
Et oui, et je suis sûre qu'on a un beau tableau comme ça chez soi dans le salon. Nos invités viennent forcément de me dire « Waouh, c'est trop joli !» Donc, ça donne de l'âme à une pièce.
Voilà. Ça fait du bien.
Ça fait du bien. Eh bien, merci beaucoup, Alexiane. Je suis très contente d'avoir pu t'accueillir dans l'épisode de podcast. Et puis, je te souhaite un bon chemin juridique autour de ton entreprise et d'être toujours bien parée aux éventualités. Et sinon, tu sais où trouver.
Avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation.
Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de podcast. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Slip into your dreams tonight.